Técombe, les tournesols. Chapitre 1. Elle est habitée depuis 3 mois environ par Charles Dallas, un jeune peintre dont le nom indique l'origine écossaise. C'est un talent qui ira loin, disent ses intimes. Pour le moment, il débute et, en attendant la fortune et la gloire, il s'est marié. L'attente à deux a bien ses charmes. Sa jeune femme est une jolie blonde, un peu sentimentale et plongée jusqu'au cou dans l'esthéticisme. Elle a juré d'y convertir Charles, qui défend pouce à pouce le domaine des théories, mais, en mari bien épris, lui concède tous les détails d'application pratique. C'est ainsi que leur nid modeste a reçu ce nom de ville à tournesol qui a l'air d'une déclaration de principe. « Comment, Marjorie, déjà tout habillée ?» s'écrie Madame Lily Dallas en traversant le vestibule où de grandes jarres étrusques pleines de feuilles de rose répandent un parfum subtil. « Mais nous avons encore 1 heure avant le dîner. » « Je ne suis pas tout à fait prête, » répondit Marjorie qui, une paire de ciseaux à la main, fourrageait dans les jardinières. « Comment trouvez-vous ma robe, Lily ? Là, franchement !» Et, jetant ses ciseaux, elle fit une vive pirouette, pinça du bout des doigts les plis de sa jupe et avança la fine pointe de son pied comme une marquise qui se prépare à danser la gavotte. Madame Lily sourit. « Tout ce que vous portez est charmant comme vous, petite folle » ajouta-t-elle avec un baiser affectueux et presque maternel. Lily et Marjorie Dallas ne se ressemblaient en aucune manière, ce qui explique peut-être la bonne intelligence qui régnait entre elles, bien qu'elles fussent belles-sœurs. Après le mariage de son frère, Marjorie, qui jusqu'alors ne l'avait jamais quitté, voulait se retirer à la campagne chez une de ses parentes. Mais Lily n'y avait pas consenti. C'était une nature affectueuse et débonnaire, peu accessible à la jalousie, assez nonchalante et admirant beaucoup chez les autres la vivacité qui lui manquait. Grande, blanche, élancée comme un lys, elle avait dans tous ses mouvements une grâce lente qui formait le plus parfait contraste avec la pétulance de Marjorie. « Ma belle-sœur, disait celle-ci, est un signe. Moi, je ne suis qu'un petit moineau brun. » Petite et brune, elle l'était certainement. Mais il y avait dans l'ensemble mignon de sa personne une finesse, une distinction qui lui fait comparer plutôt à une fauvette. Posée comme elle l'était en ce moment et tout enveloppée d'un rayon bleu qui tombait des hauts vitraux, Marjorie était séduisante. Elle avait du piquant, charme plus rare que la beauté en Angleterre. Cependant, sa toilette ne lui rendait pas justice, bien qu'elle eût passé beaucoup de temps à l'élaborer. C'était une robe esthétique, dans le style Reine Anne, à corsage court et froncé, et dont la jupe à plis droit était ornée d'un absurde petit volant. La couleur de l'étoffe était cette teinte indescriptible à laquelle on a donné le nom de bleu choléra. Un fichu garni de valenciennes et croisé à l'enfant, des anneaux indiens pour bracelets et de petits souliers pointus lacés sur des bas à jour étaient les accessoires obligés de ce costume archaïque. Il n'y a qu'une Anglaise pour s'infliger par principe une toilette qui lui sied mal. Cependant, Madame Lily, après avoir longuement considéré Marjorie, fit un geste d'approbation. « Esthétique, purement esthétique !» dit-elle de sa voix douce et lente qui semblait toujours soupirer des élégies. « Edgar n'y trouvera rien à reprendre, » ajouta-t-elle. Marjorie se détourna subitement et, en moins d'une minute, ses ciseaux firent un ravage terrible dans la jardinière. « Il me faut des fleurs pour mes cheveux, » dit-elle au bout d'un instant, mais sans lever la tête. « C'est pour cela que j'étais descendue. »« Lily !»« Eh bien, ma chère, « quelle est la fleur favorite de votre frère ?»« Quelle question ! Le tournesol, cela va sans dire !» Marjorie soupira. « Les tournesols ne fleuriront que plus tard, » dit-elle. « Vous croyez ?» fit Madame Lily avec un sourire. « Comment ? Nous aurions des petits pois en décembre, des pêches en janvier, et nous n'aurions pas de tournesol en mai ? À quoi serviraient alors les serres et les jardiniers ? Et la lumière électrique et toutes les inventions. Venez avec moi, Marjorie, je vous ai préparé une surprise. Elle ouvrit toute grande la porte du salon et sa jeune belle-sœur poussa un cri de ravissement. Dans l'embrasure de chaque fenêtre se trouvait un grand vase de faïence bleue et blanche d'où s'élevait, raide comme une pique, une haute plante de tournesol. Chacune portait plusieurs fleurs largement épanouies. Ce salon eût suffi à justifier le nom de la villa, car la même corolle jaune, large comme une assiette et d'une exaspérante symétrie, était reproduite partout, de face, de profil ou de trois quarts, grimpant dans la bordure des rideaux, courant le long de la tenture, s'étalant sur les paravents, les coussins, s'ouvrant partout comme un grand œil étonné. Impossible de se soustraire à cette obsession. La fleur mystique vous regardait jusqu'à ce que, décontenancé, vous tourniez la tête pour rencontrer 100 autres yeux jaunes fixés sur vous dans la même contemplation grave ou moqueuse. Le salon de Madame Lily Dallas ressemblait à un cauchemar. Les éventails en plumes de paon, autre symbole de toute esthète sévère, les écrans japonais groupés en panoplie, de vieux cuivres aux formes anguleuses et des faïences bleues et blanches, concouraient en sous-ordre à la décoration de la pièce. « Là, dit Madame Lily, ne suis-je pas une bonne sœur? Vous pouvez cueillir 3 tournesols, 1 pour vos cheveux, 2 pour votre corsage. Ah, mon pauvre Edgar fera bien de mettre son cœur à l'abri ce soir. » « Je le croyais invulnérable, » fit Marjorie en commençant son bouquet. « Du reste, je le connais si peu, » ajouta-t-elle avec indifférence. « Je ne l'ai vu qu'une fois, vous savez. » « Mais vous aurez maintenant l'occasion de devenir plus intime, j'espère. Avec les mêmes goûts et les mêmes aspirations artistiques, vous êtes fait pour vous entendre. » Et Madame Lily soupira. Pourquoi, elle eût été bien embarrassée de le dire. Mais son frère, l'esthétique Edgar, lui ayant révélé que tout soupir est un coup d'aile vers l'idéal, elle s'en était faite une sorte d'exercice journalier. « Il me faut du lierre, dit Marjorie, ou quelques brins de fougère pour donner de la grâce à mon bouquet. Les tournesols sont délicieux dans leur genre, mais un peu raides, Lily. »« Raides, ma chère enfant ? Dites qu'ils sont majestueux, qu'ils ont le port royal, l'air imposant, l'expression mystérieuse des sphinx égyptiens. Mais parlez de raideur, Marjorie, vous m'étonnez. » Et de tous les coins du salon, les grands yeux jaunes semblèrent se fixer sévèrement sur la jeune profane qui s'enfuit. « Je cours au jardin, Lily, » dit-elle en ouvrant la porte vitrée. « Je n'y serai qu'un instant. Si vous avez besoin de moi pour vous habiller, je suis tout à votre service. » Puis elle descendit lestement le petit perron, envahi par la glycine et les clématites. Le jardin n'était pas grand, mais disposé de façon à le paraître. De beaux arbres lui prêtaient leur ombre encore mince et déchiquetée, car les bourgeons ne faisaient que d'éclore. Une palissade voilée de lierre les séparait de la pelouse voisine qui appartenait à un club de joueurs de paume. Une petite serre octogone, sur laquelle les rayons du couchant semblaient se concentrer et qui flamboyait comme un diamant, communiquait avec l'atelier du peintre, joli pavillon éclairé d'en haut par des châssis vitrés. C'était vers la serre que Marjorie, ses 3 tournesols à la main, se dirigeait en courant, quand un bruit de voix l'arrêta. « Oh, cet ennuyeux voisin » murmura-t-elle en se glissant derrière un massif de lauriers. Mais on l'avait aperçu. « Marjorie !» cria son frère. « Pourquoi vous sauvez-vous ? » « Je ne me sauve pas le moins du monde » fit-elle en redressant sa tête mignonne d'un air de grande dignité. « Je suis très pressée, voilà tout. »« Ah, Monsieur Stanley, bonsoir !» Et elle tendit 2 doigts au voisin qui la regardait en souriant, appuyée sur la palissade qui séparait les 2 jardins. Bien d'autres jeunes filles eussent été charmées de mettre leur main tout entière dans cette belle main forte et soignée qui s'avançait à la rencontre de celle de Marjorie par-dessus la palissade. Mais Mademoiselle Marjorie avait pris le voisin en grippe. D'abord, il s'appelait John, ce qui est impardonnable. Il avait un bureau dans la cité comme tout le monde. Il ne cultivait pas de tournesol et montrait un penchant marqué pour la statistique. Il n'avait rien de mystérieux ni de fatal. Il se portait bien, ses affaires prospéraient. Les deux petites maisons jumelles lui appartenaient. Il habitait l'une et louait l'autre à Charles Dallas, ne marchandait pas sur les réparations et venait d'élever un poulailler au fond de son jardin. En un mot, ce n'était pas un homme intéressant. « Marjorie, dit le jeune peintre, j'ai besoin de votre éloquence. Priez donc M. Senlet de dîner avec nous ce soir. » « Ce soir, fit Marjorie en élevant un peu ses fins sourcils bruns, c'est une invitation à courte échéance. Bah, entre voisins, on n'y met pas tant de façons. Vous acceptez, Senlet, n'est-ce pas? C'est un service personnel à me rendre. » « Comment cela ? » fit le jeune homme qui ne quittait pas la palissade. « J'ai besoin d'un allié. Mon beau-frère, Edgar Brown, et ma femme et ma sœur sont ligués contre un pauvre peintre pour le convertir de force à l'art pré-raphaélique. Que voudriez-vous qu'il fît contre trois ? Allons, acceptez, nous serons deux à représenter le bon sens. » Marjorie leva les yeux d'un air indigné. « Prenez garde, dit-elle, que votre allié ne passe à l'ennemi. » Puis elle regarda M. John et l'idée lui vint d'en faire un néophyte. « Puis-je annoncer à ma belle-sœur que vous dînerez avec nous ? » demanda-t-elle. « Vous risquez d'y laisser vos principes, je vous en avertis. Mais nous vous en donnerons d'autres tout neufs. » Son sourire, le premier qu'elle accorda au jeune voisin, était irrésistible. « Merci !» répondit M. John de son air grave et sans paraître bien vivement ému de la faveur insigne qu'on lui accordait. « J'accepte avec plaisir. »« Avec plaisir, vraiment !» pensait Marjorie tout en cueillant quelques brins de fougère délicate qui tapissaient le fond de la serre. « Il n'est pas adonné au superlatif, ce jeune homme. S'il avait du tact gros comme une tête d'épingle, il aurait refusé. S'ingérer dans une réunion de famille, quelle indiscrétion ! Et quel convive pour un dîner esthétique! C'est la prose même, cet homme-là. Il est ponctuel et correct comme un carnet d'échéances. C'est un chiffre qui marche, voilà. » Au lieu de traverser de nouveau le jardin pour entrer chez elle, Marjorie passa par l'atelier contigu à la serre et se précipita en coup de vent chez Madame Dallas, qu'elle trouva tout habillée. « Oh, Lily, que vous êtes belle !» s'écria la jeune fille avec une admiration sincère. Drapée dans une ample robe de laine blanche brodée d'une guirlande de tournesol, ses beaux bras sortant des larges plis d'une manche relevée par une agrafe ciselée, une ceinture vieille or serrant sa taille élégante, ses beaux cheveux cendrés noués à l'antique, Madame Lily était superbe en effet. Entre les deux modèles autorisés que l'esthéticisme offre à ses adeptes, elle avait sagement choisi ce costume fait pour relever son genre de beauté et qui tenait le milieu entre les draperies grecques et la tunique classique que les peintres donnent à l'ange Gabriel. Le climat de Londres, cependant, ne ressemble guère à celui d'Athènes et il serait peu prudent de se promener le long des trottoirs de Kensington en déshabillé de canéfort, supposant même que l'opinion publique y consentit. Marjorie, dans sa petite robe Queen Anne et sa mante forme pingouin qui lui permettait de braver la poussière de la rue, le vent et les averses, avait à l'ordinaire un avantage sur sa belle-sœur, car Lily ne pouvait être à son aise que chez elle, ce qui diminuait ses chances de faire des prosélytes. Mais en cet instant, Marjorie oubliait toute autre considération pour ne voir que la beauté vraiment triomphante de Lily. Elle s'avança devant la psyché et se tint debout à côté de sa belle-sœur. Puis, jetant sur sa propre image un regard peu satisfait, elle soupira sans rien dire. Madame Lily se pencha vers elle et caressa doucement de sa main blanche les cheveux bruns de la jeune fille. « Vous êtes charmante, ma petite, dit-elle. Pourquoi ce gros soupir? Peut-être ai-je plus de beauté que vous, mais ma beauté est toujours la même. Je me connais bien, Marjorie. Vous avez de l'imprévu. Quand vous souriez, vous êtes un petit lutin irrésistible. Ah, le voilà qui revient, ce joli sourire !»« Lily, vous êtes aussi bonne que belle !» s'écria Marjorie en jetant ses deux bras autour du cou de Madame Dallas. « Là, est-ce que nous ne nous encensons pas comme deux académiciens ?»« Ah, Lily, j'oubliais !» Et son ton devint tragique. « Le voisin dîne avec nous !» « Quel voisin ? Monsieur Senlet ? Oui, Charles l'a invité ex abrupto, et ce qui est plus violent, il m'a obligé à ratifier l'invitation.
Voilà bien, Charles, dit Madame Lily, légèrement contrariée. Monsieur Stanley est un parfait gentleman, j'en conviens, et un propriétaire des plus agréables, mais il n'entend rien à l'art. Il sera comme une fausse note dans notre concert intime. Qu'est-ce qu'Edgar en pensera? Il a la délicatesse d'une sensitive, ma chère. C'est une âme de poète qui ne s'ouvre, comme il le dit lui-même, qu'en sentant dans l'air le frémissement rythmique de l'harmonie des ondulations ou de l'ondulation des harmonies.
Ce n'est pas clair, mais c'est très beau, dit Marjorie avec conviction.
Sonnerai-je Annie pour lui dire de mettre un cinquième couvert?
Oui, ma petite souris, et comme j'ai fini ma toilette, laissez-moi ranger ces fleurs dans vos cheveux.
Les perfections de M. Edgar Brown faisaient l'entretien favori des deux jeunes enthousiastes. Madame Lily avait été élevée à admirer Edgar, qu'elle aimait tendrement, bien qu'il ne fût que son demi-frère. Elle voyait en lui un grand homme universel, poète, peintre, musicien, pontife de l'art suprême. Elle avait pour lui un respect infini. Marjorie n'avait aperçu qu'une fois l'esthétique Edgar. C'était au mariage de Charles et il s'était renfermé dans un silence presque absolu. Sans doute, il ne sentait pas dans l'air ces ondulations rythmiques nécessaires à l'épanouissement de son âme. La réserve et les attitudes mélancoliques du jeune esthète ne l'avaient rendu que plus intéressant aux yeux de Marjorie. Elle l'avait trouvé mystérieux et beau, comme une sorte d'Apollon mystique. Le lendemain, il était parti pour Cannes, où il avait passé 3 mois, vivant d'azur, comme il l'écrivait à sa sœur. Après quoi, il avait senti le besoin de revoir l'Angleterre. Pour se refaire, ce qui n'a rien d'étonnant, disait Charles Dallas.
« J'espère qu'il sera en verve ce soir, » soupira Madame Lily, tout en épinglant d'une main légère, dans les plis du fichu de Marjorie, deux gros tournesols enlacés d'une longue traîne de lierre. Son humeur a des nuances infinies. Il le dit lui-même bien poétiquement dans la dernière lettre que je vous ai lue. Mes joies sont des arcs-en-ciel aussi brillants que passagers. Elles sont faites de larmes autant que de soleil.
Ah, Marjorie, conclut Lily avec un soupir.
Ah, Lily, répondit Marjorie avec un soupir correspondant. Puis leurs yeux se rencontrèrent et elles éclatèrent de rire toutes deux. Leur mélancolie n'était encore qu'à la surface. Mais le grand maître allait venir et leur enseigner que les prêtres et prêtresses de l'art nouveau, les augures de la mort d'Olorosus, ne doivent pas rire, même en se regardant.
« Descendons maintenant, dit Madame Lily. Nos hôtes ne sauraient manquer d'arriver bientôt. »